Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, on est de retour dans les grandes gueules du sport. C'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous en direct comme tous les week-ends. On a juste fait une petite pause le week-end dernier avec un best-of le week-end du 24 et 25 décembre. Nous sommes là en direct, solide sur les appuis, le 31 et le 1er. Demain, à partir de 9h, Marie, tu seras là en pleine forme. Marion Bartoli, tu seras là. Simon Dutin également. Pascal Duprat sera avec nous et on a plein de débats, notamment Didier Deschamps, Noël Le Graët, ils se sont vus cette semaine, nous avons quelques informations. C'est bien parti, mais il y a encore un petit souci sur la durée du contrat, 2 ans ou 4 ans. On en parlera demain dans les grandes gueules du sport. On parlera aussi de Kylian Mbappé, de Patrick Lefebvre qui allume une nouvelle fois Julien Alaphilippe. Bref, beaucoup de débats, même un 1er janvier, et puis les vœux évidemment des GG en 2023. Toujours avec Simon Dutin, Marie Martineau, David Douillet, Marion Bartoli. Dans quelques instants, vous allez devoir vous mouiller, cher GG. Nous avons vécu une année sportive magnifique. Quelle est votre plus grande émotion, pardonnez-moi, de 2022? Et puis 11h30, c'était mieux avant, notre hommage appelé, signé Christophe Cessieux. Ne manquez pas cette séquence magnifique, ce bonbon nostalgique signé Christophe Cessieux autour de Pelé et de ses 3 Coupes du Monde. La cérémonie des GG, c'est maintenant pour l'année 2022. Vous avez tous choisi votre moment de cette année.
Oh, la Réal de fou.
Et c'est à l'armoricaine, vous savez. On a beaucoup de moyens dans cette émission et nous les mettons évidemment à profit. Wow. Merci à Alban Azaïs à la réalisation. Merci à Pierre Amiche à la production. Le mec s'est transformé totalement. Et merci à vous, chers auditeurs, car on est très heureux d'être avec vous pour ce 31 décembre, ce réveillon, les Oscars des GG. Nos champions ont choisi un moment magnifique pour eux. Un moment qui les a fait frissonner en cette année 2022. Qu'ont-ils choisi? Ont-ils choisi leur sport? Leur terrain inconnu? Sont-ils allés vers d'autres horizons? La réponse, c'est maintenant. J'ai 4 enveloppes devant moi. L'enveloppe de Marie Martineau, l'enveloppe de Marion Bartoli, de David Douillet et de Simon Dutin. Nous allons débuter par ordre chronologique. Nous rappeler quelques moments qui nous paraissent lointains et pourtant...
C'était cette année.
Marie Martineau, tu as choisi... Le 8 février 2022, c'est la finale du Big Air féminin aux Jeux Olympiques de Pékin. Le duel entre une Chinoise, révélation, et une Française, Tesla 2.
Bien joué Tess, la réception en arrière, il y a eu beaucoup de rotation. Elle se tire le casque, elle est heureuse d'elle. C'est un magnifique run que propose encore une fois Tesla 2. Tesla 2 marque encore une fois énormément les espions. 93 pour Tesla 2 qui se tire le casque après 94,50 sur le premier run. Ce sera médaille d'argent pour Tesla 2. Médaille d'argent remportée par la Française Tesla 2. C'est une magnifique performance.
Ramène médaille à la France, c'est top, c'est super. Moi je suis absolument pas déçue, je suis tellement fière d'elle. Elle aurait même rien ramené du tout, j'aurais quand même été fière d'elle. Donc là c'est un truc de dingue.
Demain on se rendra compte, je crois qu'en fin de compte la médaille d'argent c'est absolument fabuleux. Je l'aime, je l'adore. Je lui dis tous les jours et je le répéterai sans arrêt. J'aime ma petite fille, j'aime Tess.
Oh, c'est tellement mignon. Alors j'ai choisi cet extrait pourquoi? Enfin cette performance sportive pourquoi? Pour plein de raisons. La première déjà, il y a eu toute une polémique sur cet endroit, ce Big Air en ville, et on tournait en boucle là-dessus sur le fait de la réaffectation de ce spot-là. Et je trouvais ça dommage parce qu'au contraire, pour le coup, ils avaient fait d'un endroit pas très joli quelque chose avec une nouvelle vie, une vie de sport, et ils en ont fait un complexe sportif extraordinaire. C'est le plus beau Big Air en ville qu'on connaissent sur la planète.
Tu peux juste rappeler ce qu'est le Big Air?
C'est un saut où les athlètes doivent faire une figure et traverser un plat qui fait à peu près une trentaine de mètres pour qu'on s'imagine. Hein, donc ça fait un énorme saut. Voilà, il y a une figure à présenter au juge, puis une deuxième figure à présenter au juge, et puis on fait l'addition des points récoltés sur ces deux figures.
C'est du ski acrobatique.
Du ski acrobatique. On doit faire une figure et attraper ses skis en l'air. Ça s'appelle grabber. Donc voilà, le niveau chez les filles était monstrueux sur cette compétition. La densité était folle. Je n'ai jamais vu autant de filles de nationalités différentes en haut d'un billard de 30 mètres capables de proposer autant de figures. Et Dieu sait qu'on a été décriées longtemps, les filles, dans le ski freestyle parce qu'on n'était pas assez impressionnantes, justement. Et là, c'était juste énorme. Donc, ça aussi fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce moment. Cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance d'être au commentaire ce jour-là. Donc, je l'ai vécu et je devais le transmettre aux Français et aux Françaises qui écoutaient, qui regardaient cette compétition ce jour-là. Donc, c'était royal pour moi de faire vivre les gens cette chose-là. Et puis, il y a eu un scénario de course assez incroyable. On avait, tu l'as dit, JC, Aileen Gu, une jeune américaine qui a été nationalisée chinoise, enfin, une sino-américaine, qui a un niveau exceptionnel et qui se tirait la bourre avec Tess Le Deux, notre petite française qu'on aime, notre petite plagnarde. Et jusqu'au bout, on a pensé que Tess serait championne olympique. Et au dernier moment, la chinoise, voyant que Tess avait replaqué une figure que personne d'autre n'était capable de faire, et ben, elle l'a lancée. Et ben, contre toute attente, elle a réussi à le poser. Et donc, du coup, les juges se sont alignés sur le score de Tess. Et comme je vous le disais, on additionne les deux meilleurs sauts. Le deuxième saut de la chinoise était un petit peu meilleure, donc elle est passée devant. Contre toute attente, elle a été championne olympique. La tension, la dramaturgie de cette compète était folle, le niveau était fou, les figures étaient dingues et on avait beaucoup parlé de cet endroit-là. Donc c'était en début d'Olympiade et j'ai trouvé que ça, tous les ingrédients convergeaient vers un moment de sport assez incroyable. Alors comme c'est en plus proche de mon sport de cœur, forcément c'était merveilleux pour moi.
C'était ton moment de l'année 2022. Merci de nous l'avoir fait partager. Tu le racontes très bien. Nous allons passer au moment de David Douillet. Qu'a-t-il choisi ? Son moment 2022. Nous sommes le 19 mars. Que s'est-il passé le 19 mars ? On était un samedi. J'ai mangé des pâtes, je m'en souviens. Mais surtout, des bolos. C'était des bolognaises. Mais surtout, il s'est passé ça.
Avec un 3, 2, 1, avec la fumée. Équipes qui pénètrent sur ce terrain du Stade de France. Antoine Dupont en courant avec ses coéquipiers. Corpelov qui fait de même à gauche. Et feu d'artifice au-dessus de l'anneau. Grande soirée rugby évidemment sur RMC pour ce dénouement. Cyril Bay qui lève le ballon pour Dupont. Dupont pour Edith. Allez, les salves, allez, les salves le françaises qui reviennent. Voilà. Avec Dupont extérieur, petit côté.
Essai,
il s'écroule Ntamak. Essai derrière. Qui a pris ce ballon? C'est cross dans le ruck. 4, 3, 2, 1. C'est voilà, fini. 80e minute. L'introduction pour Maxime Lucu. Alphine qui dégage. La France a gagné. La France a remporté le tournoi à destination. Après Christian Carra, après Jean-Pierre Rive, après Jacques Fourou, après Daniel Dubroca, Benazi, Bagnas Pelouse, Galtier du Sautoir. Eh bien, Antoine Dupont va soulever le trophée pour le 10e grand chelem français.
Bon, eh ben, moi j'ai choisi ce moment parce que ils ont fait ce qu'on appelle la ligne droite sans encombre, le grand chelem, c'est-à-dire que 10 victoires, 10 matchs. Et je m'arrête un petit peu, on a parlé avec Pelé tout à l'heure sur ce chiffre 10, parce que la France n'avait pas gagné un grand chelem depuis 2010. C'est le 10e grand chelem réussi par l'équipe de France dans le tournoi destination. Et ils ont fait 10 matchs, 10 victoires. Voilà. Je trouve que même si Antoine Dupont a le poste 9 dans son club, l'équipe de France va briller, va être au rendez-vous de la Coupe du Monde du rugby qui va avoir lieu chez nous après ces matchs face à l'Australie et l'Afrique du Sud, victorieux bien sûr. On a une grande équipe de France en marche pour atteindre un titre et c'est tout ce que j'espère pour notre pays, pour le rugby et pour notre nation. Là, on a une équipe de grands joueurs, on a du talent partout, ça déborde partout. On a un banc qui est pétri de valeurs aussi. Moi, je me régale en les voyant jouer et j'espère que ça va continuer.
Tu as adoré le grand chelem de l'équipe de France avec cette dernière victoire. On l'a écouté avec Denis Charvet et Wilfried Templier au commentaire. Cette victoire face à l'Angleterre qui permet à l'équipe de France de gagner le grand chelem. Et puis après, tu l'as rappelé, ce record d'invincibilité, cette saison, cette année magnifique. Il y a eu le Japon, il y a eu l'Australie, il y a eu l'Afrique du Sud pour la tournée de novembre. Bref, que des victoires pour nos Français. Et évidemment, tu avais envie de parler de ce 15 de France que l'on attendra forcément en 2023 avec la Coupe du Monde dans notre pays. La cérémonie des Oscars, des GG, votre meilleur moment en 2022 se poursuit avec Simon Dutin. Petit saut de puce, on était le 19 mars avec David Douillet, même si on l'a bien compris que ça avait continué toute la saison et toute l'année pour le 15 de France. Nous sommes le 13 juillet. Tiens, c'est pas tes vacances?
Non, 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 non.
Le 13 juillet.
Moi, je travaille pendant les vacances des autres.
C'est ça.
Ah oui,
c'est un peu.
Ah oui, c'est vrai, c'est ton principe. Oui, c'est bizarre d'ailleurs comme principe, non?
Et mes vacances, ça s'appelle le chômage. Tu sais, quand je ne travaille pas, voilà.
C'est bizarre aussi comme principe.
Ouais, c'est bah ouais, c'est.
D'accord.
Bon. Je t'en parlerai.
Le Tour de France, la 11e étape, la victoire de Jonas Vingegaard dans le col du Granon. C'est le moment choisi par Simon Dutin.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Vingegaard et Roglic sont en train d'accélérer.
Attention, une nouvelle attaque de Vingegaard.
Vingegaard à l'attaque, on est déjà dans le ring. Incroyable. Dans le ring à 58 km de l'arrivée. La meilleure défense, c'est l'attaque. On lui a dit dans l'oreillette peut-être. Alors vas-y, attaque, lâche-les. Ça va réaccélérer avec Vingegaard sur la droite de la route. Pogacar est obligé d'en placer une. Geraint Thomas avait surveillé. Roglic va aller se placer en quatrième position.
45 km encore à parcourir pour Warren Barguil. Et pourquoi pas une victoire d'étape.
Allez chercher Warren Barguil qui est en tête, mais Geraint Thomas qui est en train de craquer. Romain Bardet, lui, est dans la roue de Pogacar et de Vingegaard. Geraint Thomas, le Britannique qui n'arrive pas à suivre. Il est à la dérive, Pogacar.
Ah, il s'accroche.
Par à gauche, à droite. Non, il va s'accrocher.
Pour l'instant, il n'est pas lâché par David Godu.
On l'a jamais vu comme ça. Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant. Vainqueur d'étape. Quintana arrive à l'instant. Une minute juste après Vingegaard.
RMC Intégral Tour.
Ben voilà, j'y sais, c'est ce que les amoureux de la petite reine attendaient depuis je sais pas combien d'années, depuis 20 ans, depuis 25 ans, et puis tous les ans on a envie d'y croire, on regarde les profils des étapes. Marie rappelait tout à l'heure qu'effectivement au Danemark on nous avait vendu peut-être du suspense, des bordures et déjà des écarts au classement. On avait été un peu frustrés par le début du tour. Pogacar dominé, on faisait déjà les comparaisons avec Eddy Merckx. Il gagne sur tous les terrains, il avait remporté des classiques, il s'apprêtait à dominer une nouvelle fois ce Tour de France. Il dégageait une impression vraiment de solidité, de domination. C'était le coureur imbattable. Et puis il y a cette étape, le col du Granon. Effectivement, sur le papier, tu te dis c'est possible, Mais au départ de l'étape, tu te dis personne va réussir à le lâcher. Il est trop facile, il est trop fort, il est à la fois trop élégant, mais trop puissant en même temps. Il paraissait imbattable. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on attendait. Je vais parler peut-être aux plus anciens, mais ce que j'avais jamais vu, par exemple, avec la Mapei à l'époque où Tommy Rominger était le challenger de Miguel Indurain. Ils ont jamais couru en équipe, ou Chiappucci peut-être avec la Carrera. Tu vois des mecs qui avaient peut-être le potentiel pour gagner, mais qui n'ont jamais développé des stratégies d'équipe, tu sais, pour aller titiller un peu le leader. Pogacar, on l'avait dit, son seul peut-être point faible, c'est d'être trop fort, trop seul dans son équipe. Et effectivement, ce jour-là, on a les Jumbo et un Roglic, lui, qui au départ du tour était lui aussi peut-être prétendant du tour, qui se met au service de Vingegaard. Ils te font exploser la course, même tu le sens dans le chez nos commentateurs sur RMC, la surprise quoi. Tout le monde est désarçonné. Ils se mettent à attaquer à tout va dans la plaine pour rendre fou complètement Pogacar. Ils arrivent d'abord à isoler, et puis il y a cette dernière ascension. Là encore, t'as envie d'y croire, te dire Vingegaard, mais je sais pas. Quelque part, tu dis bon, à l'autre il va les régler un peu dans l'ascension, il va leur montrer qui est le patron, et ça a dû l'agacer un petit peu, le titiller. Et puis non, Vingegaard attaque, et puis tu sais, avec t'as les mecs qui filment sur la moto, qui font le point, tu sais, et tu vois Vingegaard, et derrière tu vois que Pogacar est flou, tu vois les premiers écarts, ça monte au-dessus des 10 secondes, et donc tu finis par prendre conscience que ce que tu pensais, en tout cas moi personnellement, depuis des dizaines d'années, impossible, quoi, ce qu'on ne verrait plus. Eh ben arrive quoi, une équipe qui met ses meilleurs atouts, parce que Roglic, tu fais pas meilleur comme rouleur, même s'il est très très à son avantage en montagne, qui se met au service du petit jeune et qui fait péter la course comme ça. Alors on oublie en plus, bon, il y avait les émotions parce qu'il y avait Barguil à l'avant de la course, on se disait peut-être qu'il va tenir, qu'il va nous faire l'exploit et tout. Bon, finalement il se fait croquer dans la dernière ascension, mais écoute, il y a tout ce que j'attendais depuis 20-30 ans en regardant le Tour de France, une équipe qui bosse ensemble, qui te dynamite une étape qui finalement se passe plus du tout comme prévu, et puis voilà, la naissance d'un nouveau champion, et certainement, espérons-le, d'une rivalité pour les années futures, quoi.
Ce coup de force de Vingegaard dans ce col du Granon, c'est ton moment choisi pour l'année 2022. Il faut se souvenir aussi, et j'imagine que ça participe à ces frissons que tu as ressentis, Romain Bardet est deuxième au classement général après cette étape, oui, où il réussit une magnifique montée également juste derrière Jonas Vingegaard. Merci Simon. Marion, c'est à toi. Quelques semaines plus tard, tu n'as pas réussi à choisir, Marion, parce que ça se ressemble un petit peu. Vous imaginez certainement le moment, meilleur moment de Marion en 2022. Nous sommes le 3 septembre à l'US Open et quelques jours plus tard, le 23 septembre, à la Lever Cup.
Thanks, Mom. Oh my God, Mom. Just thank everyone that's here, that's been on my side so many years, decades. Oh my gosh, literally decades. And I wouldn't be Serena if it wasn't Venus. So thank you, Venus.
Ever since everybody's here, the girls, the boys, my wife's been so supportive, and she could have stopped me long, long time ago. But she didn't. She kept me going and allowed me to play, so it's amazing. Thank you.
J'ai choisi ces deux moments, et ces deux moments que j'ai pas pu départager parce que deux légendes d'autres sports, mais je pense de légendes tout court, nous ont quittés cette année. Ont pris leur retraite et on a ressenti cette émotion, et j'ai eu la chance de le vivre effectivement en live, et pour avoir eu la chance d'affronter Serena quelquefois, de connaître son histoire aussi, l'histoire avec son papa, l'histoire de famille. Un film est d'ailleurs sorti sur son histoire. Connaissant tout ce qu'elle a dû parcourir et vaincre pour en arriver à remporter 23 tournées Grand Chelem. Voir tout ce stade acquis à sa cause sur leur arturage. On a même cru à un moment donné au conte de fées, pourquoi pas aller remporter l'US Open pour une dernière fois, une dernière danse. Elle a échoué au troisième tour, mais ça a été un moment pour moi qui a décrit finalement toute sa carrière. Et comme Roger d'ailleurs, c'est-à-dire deux immenses champions au-delà de tout, au-delà de tous les superlatifs. Et même si tous les amateurs de tennis ont parfois leur joueur préféré, je crois que c'est impossible de ne pas aimer Roger Federer. C'est impossible de ne pas respecter Serena Williams. Et dans ces moments-là, les voir aussi humains, aussi touchés par le fait de dire fin à toute cette histoire, ça m'a forcément beaucoup ému, parce que ça m'a rappelé aussi le moment où j'ai dû raccrocher mes raquettes. Mais de voir Roger vraiment en train de craquer complètement, tenir la main de Rafael Nadal, tous les deux en pleurs. Enfin, je crois que c'est une image qui restera gravée dans les annales du sport au-delà du tennis, comme une image certainement une des plus fortes images qu'on ait pu voir sur un terrain de sport. Et pour avoir eu la chance de côtoyer ces deux immenses champions, les côtoyer encore, je sais à quel point ils ont tout donné pour leur sport, et ils représentent bien au-delà de tout ça des icônes globalement dans tout ce qu'ils font. Donc ça m'a énormément touché de les perdre tous les deux, parce que j'aurais plus la chance de pouvoir les commenter sur un terrain de tennis, mais je les remercie pour toutes les émotions qu'ils m'ont procurées pendant toutes ces années.
La DER de Serena Williams avec son discours, la DER de Roger Federer avec son discours. On a vécu évidemment une saison, une année 2022 pleine d'émotions. J'ai le droit de jouer moi aussi, j'aime bien cette cérémonie des Oscars, des GG.
Allez, bon, sais, quel est le moment sportif que tu as préféré dans cette année
d'après
2022?
D'après vous, ce serait quoi comme ça?
Toi, bon, un truc de golf.
Même pas.
Tiger Woods, non?
Ouais, même pas. Non. Bah non, Tiger Woods, il a pas forcément brillé.
Javier Pastore qui signe en Espagne, non?
Non, j'adore Javier Pastore, quand même. Moment d'émotion. Oh, c'est pas très original.
Bah, c'est du Mbappé ou du PSG?
C'est pas très original. Ça s'est passé il y a quelques jours.
Le triplé?
Le tir au but de la finale.
Le 18 décembre 2022, c'est donc la finale, vous avez raison, de la Coupe du Monde France-Argentine. Et ce moment qui, j'imagine, vous a fait frissonner, parce qu'il y a un moment
l'égalisation d'Mbappé
absolument magnifique, c'est le but du de partout. Mbappé, oui. Quelques secondes.
J'ai vu en live,
d'avoir
moi j'étais dans le train,
réduit.
Ça
stade, en live, dans l'écart. Le stade.
D'accord, c'est mon moment là.
C'est un peu frustré. Ça va,
j'ai eu. C'était pas mon moment là.
Je verrai ça de tête.
Toi, tu l'as peut-être vu. Toi, tu l'as peut-être vu au stade, mais moi, je l'ai vu à la télé, ok?
Voilà.
Ce moment avec Jeannot Rességuier, magnifique, Jérôme Rotten, Jean-Louis Tour en direct du stade. Il y a 2-1, il y a quelques secondes, on n'y croyait même pas.
Ouais.
Et ce bonheur est arrivé.
C'était perdu.
Rabiot le décalage avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui remise.
Allez,
Thuram, Kylian
avec Kylian.
Mbappé
avec Kylian. Kylian.
Ce qui se passe, c'est surnaturel, mais pourtant c'est bien réel. L'équipe de France, grâce à Mbappé, sur son doublé, qui revient dans le match et qui égalise.
Alors, je sais pas vous, les copains, mais moi, ça me met les poils. J'ai toujours, pourquoi j'ai choisi ce moment? Évidemment, parce que c'est, on a vécu un match de légende et peut-être que nous n'allons jamais revivre un moment comme ça. J'adore réécouter les commentaires de match. Pour tout type de match, quand il y a une émotion, quand il y a quelque chose, et sur ce but-là, peut-être que le but de, vous voyez, le France-Argentine en 2018, j'ai peut-être dû réécouter 15 fois sur différents supports, à la radio, à la télé, différents commentaires, parce que j'adore le commentaire. Je trouve que c'est un exercice extrêmement compliqué de placer les mots justes au bon moment, et je suis incapable de le faire. Et quand j'écoute Jeannot Rességuier qui dit, c'est un moment sidérant, surnaturel. Mais si c'est bien réel, eh ben c'est ce genre de choses que je viens chercher, c'est ce genre d'émotion. Alors c'est vrai que sur le moment, on a tous crié, soit au stade, soit devant notre télé, soit devant notre
radio.
Ah ouais, on a tous crié. Si tu sous-titres ce que dit nos consultants, c'est un... Et Jeannot, il arrive à replaquer, effectivement, t'as raison de le souligner.
Non, mais on a forcément tous crié, donc on n'a pas entendu vraiment en live les commentaires du commentateur à ce moment-là. Et j'adore les réécouter, parce que nous, on est à froid après, c'est-à-dire qu'on on réécoute et on se dit, ah ouais, sortir ça à ce moment-là, alors que toi, la seule chose que tu peux faire devant ton canapé, c'est de crier, voilà, enfin sur ton canapé, parce que si t'es devant ton canapé, t'es dos à la télé, ça n'a rien à voir, puis ça n'a aucun intérêt. Et donc c'est ce moment d'émotion que j'aime dans le sport, c'est ce commentaire que j'aime qui va avec l'action évidemment parce que le génie c'est Mbappé, mais le commentaire participe du génie aussi de ce moment-là. Et
il y en a quelques génies du commentaire à RMC. Hein.
Mais exactement, on a
j'espère
les meilleurs.
J'espère aussi qu'on arrêtera de chercher des points à Mbappé à chaque fois qu'il dit quelque chose.
Là j'étais dans le positif, là j'étais
Oui, ben voilà, mais moi je le dis quand même parce que j'en ai eu marre toute la saison. On dit oui, mais il a dit ça, c'est pas bien, puis les trois arrogants, puis
Tu connais le conducteur de demain? On parlera de Kylian Mbappé. A-t-il pris le pouvoir, ça y est, au Paris Saint-Germain? Tu pourras en parler à ce moment-là.
Yes.
Oh, c'est fou, hein. C'était mon moment et on le sabote comme ça. Bon, voilà les copains. Merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné votre émotion de 2022. Demain, préparez vos vœux pour 2023. Dites-nous ce que vous voulez, ce que vous voulez voir par-dessus tout. Ce sera à 11h30 demain. Dans quelques instants, restez bien avec nous. Notre hommage à Pelé dans les grandes gueules du sport. C'était il y a quelques jours, Christophe Cessieux nous avait fait partager un C'était mieux avant incroyable autour de Pelé, la légende Pelé de ces trois Coupes du Monde. On vous fait revivre ce moment dans une poignée de secondes. Restez avec nous, à tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h31, de retour dans les grandes gueules du sport. N'hésitez pas à participer à cette émission, le 32-16. Nous raconter votre meilleur moment de l'année 2022. Pourquoi pas, c'est dans une dizaine de minutes. C'est à vous de jouer. On vous attend, soit pour raconter un moment, soit pour affronter une GG. C'est donc le 32-16. Toujours avec Marion Bartoli, David Douillet, Marie Martineau, Simon Dutin. Et tout de suite, le moment d'histoire, l'hommage à Pelé.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les avants français ressortent le grand jeu. Dwyss en tête. Dwyss, c'est le Pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Nous étions le 17 décembre dernier. Christophe Cessieux nous proposait un numéro exceptionnel de son C'était mieux avant, la veille de la finale de la Coupe du Monde, sur le roi Pelé, ses Coupes du Monde, racontées par notre immense Christophe.
Il n'est encore que 9h du matin, mais en ce 21 juin 1970, flotte déjà un air de fête aux abords du stade Aztèque de Mexico. 110 000 personnes se sont levées aux aurores pour ne rien rater du spectacle qui les attend dans la grande enceinte mexicaine. Des dizaines de milliers de spectateurs se dirigent donc vers le stade, croisant ici des vendeurs de maïs grillé, là, des marchands ambulants qui proposent maillots bleus et tuniques jaunes. Dans 3 heures maintenant, débutera la finale de la 9e Coupe du Monde. Et si le Mexique est absent des débats, l'affiche Italie-Brésil a de quoi faire frémir tous les passionnés de ballon rond. Des fans qui rêvent d'assister aux nouveaux exploits de celui dont tout le monde parle depuis des semaines, voire même des années. Il est la star incontestée du football mondial, un génie du ballon surnommé O Rei, le roi en brésilien. Pelé, qui dans quelques heures et à seulement 29 ans, pourrait réaliser le rêve d'une vie et décrocher une 3e Coupe du Monde, exploit unique, encore jamais réalisé. Son premier titre, Edson Arantes do Nascimento, son vrai nom, l'a décroché 12 ans plus tôt, en 58, en Suède, où à tout juste 17 ans, il affole les compteurs et ridiculise les défenseurs. En à peine 3 matchs, il inscrit 6 buts, dont un triplé face à la France de Copa. Dès lors, ce jeune footballeur noir d'origine modeste et au sourire rayonnant va devenir un phénomène au Brésil. Accueilli comme un roi à son retour d'Europe, coupe Jules Rimet en main, Pelé devient l'enfant chéri de tout un pays, le symbole d'un Brésil qui s'émancipe. Le journaliste Paulo César Vasconcelos se souvient de cette folie douce qui s'est emparée du pays cette année-là.
Les filles voulaient qu'il soit leur mari, les garçons voulaient qu'il soit leur frère, les parents voulaient qu'il soit leur fils et tout le monde voulait être son voisin. Parce qu'il était charmant, absolument charmant. Son naturel charismatique attirait de plus en plus les gens. Et ce personnage a pris une ampleur phénoménale.
Pelé, enfant chéri du Brésil, hérite même d'un surnom octroyé par le magazine français Paris Match. Il sera désormais le roi Pelé. Un roi qui, 4 ans plus tard, se déplace au Chili pour y défendre son titre lors de la Coupe du Monde 62. Une affaire qui débute bien. Première victoire et premier but Pelé face au Mexique. La suite sera moins rose. Zagallo était à l'époque le coéquipier de Pelé.
Le deuxième match était contre la Tchécoslovaquie. On a fait match nul, 0-0. Et Pelé s'est blessé. On espérait qu'il se remette rapidement. Mais il n'a plus joué aucun match du mondial. Dieu en avait décidé ainsi.
Malgré sa blessure, le roi décide de rester au Chili pour encourager ses coéquipiers, et notamment son remplaçant Amarildo.
Alors Pelé m'a dit, mon pote, à toi de jouer maintenant.
Les mots de soutien du roi font leur effet. Amarildo inscrit le premier but de la finale face aux Tchèques qui s'inclinent 3 buts à 1. Le Brésil décroche sa 2e étoile. Le pays est en liesse. Mais l'enthousiasme des foules va s'interrompre 2 ans plus tard lorsque les militaires prennent le pouvoir par la force au Brésil. C'est le début de 20 années de plomb. Les Brésiliens, privés de liberté, soumis à la censure, vivent dans l'angoisse d'une arrestation arbitraire qui peut les amener en prison et à la torture. Face au dictateur, le général Branco, le roi du Brésil, lui, va se montrer prudent et plus neutre qu'un Suisse.
Eu já fui convidado para participar de quadros políticos aqui e sinceramente eu não tenho a intenção nenhuma de participar a nenhum grupo político.
Le football occupe un tiers de mon temps, il m'en reste plus beaucoup pour la politique. Et en plus, j'y connais rien du tout. Une neutralité qui lui vaudra moult critiques, dont celle de son coéquipier de la Seleção et futur joueur marseillais, Paulo César.
J'aime Pelé, mais ça ne m'empêche pas de le critiquer. Je trouvais qu'il se comportait comme un noir qui ne savait que dire « oui, monsieur ». Un noir qui accepte tout, incapable de contester, de critiquer ou de juger. C'est un reproche qu'on lui fait encore aujourd'hui. Si Pelé avait émis un jugement, ça aurait eu des répercussions fortes au Brésil.
Mais Pelé a d'autres chats à fouetter et surtout d'autres Coupes du Monde à remporter. En 1966, il part donc pour l'Angleterre en quête d'un 3e succès consécutif. Les équipes européennes, cette fois-ci, sont prévenues et n'ont pas l'intention de se laisser envoûter par les tours de passe-passe et autres petits ponts des magiciens brésiliens. Après un premier succès contre la Bulgarie, la Seleção, à la surprise générale, est battue par la Hongrie et joue son avenir face au Portugal d'Eusébio. Un match heurté, véritable boucherie, dont la principale victime se nomme, une fois encore, Pelé. Victime d'un tacle assassin de Moraes, le numéro 10 brésilien quitte l'aire de jeu. Sans lui, le Brésil s'incline et quitte la compétition. C'est vraiment une triste image de voir le plus grand footballeur de la planète ne pas pouvoir continuer à disputer cette rencontre et de devoir quitter la pelouse. Le roi est nu, son moral au plus bas. Il envisage alors d'arrêter sa carrière.
Perdre au premier tour en Angleterre, ça a été une grande déception pour moi. Je me disais, et maintenant, comment je vais faire? Je me suis dit, ma carrière s'arrête là. J'étais triste, je voulais tout arrêter.
Au Brésil, la nouvelle fait l'effet d'une bombe et tout le pays va alors se mobiliser pour pousser Pelé à poursuivre ses aventures en jaune et vert.
On m'invitait tout le temps à aller parler aux hommes politiques, aux députés, aux gouverneurs. Ils me demandaient toujours de faire mon retour. Ça m'angoissait. Je ne voulais pas jouer le mondial de 1970. Je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu en Angleterre. J'hésitais. Ça me faisait peur et à la fois, ça me manquait.
Mais le roi finit par céder. Après 2 ans de bouderie, il signe son retour en Seleção et inscrit 6 buts pour 6 victoires en 6 matchs lors des qualifications pour le Mondial 70. Le diable au Riverdé encore de beau reste. Après une préparation mouvementée qui verra le sélectionneur Saldanha remercié à 2 mois de la compétition pour avoir osé critiquer le roi, la Seleção, emmenée désormais par Zagallo, est en ordre de marche, prête à enchanter ses supporters et tourmenter ses adversaires. La Tchécoslovaquie sera sa première victime. Après avoir tenté un incroyable lob des 55 mètres qui échoue juste au-dessus de la lucarne du gardien tchèque, Pelé inscrit l'un des 4 buts victorieux de la sélection brésilienne. 4 jours plus tard, c'est au tour de l'Angleterre, championne du monde en titre, de subir la loi des magiciens grâce à l'unique but de la partie inscrit par Jair Zino sur un service du roi en personne.
C'était le plus beau but de toute ma carrière.
Pelé, en état de grâce, confirme contre les Roumains, inscrivant 2 des 3 buts de son équipe. Puis vient le tour du Pérou, coaché par Didi, l'ancien équipier de Pelé. Ça ne suffit pas, les Péruviens s'inclinent 4-2. Mais en demi-finale, voilà l'Uruguay. Vieille connaissance et triste souvenir pour tous les Brésiliens.
Eh bien, ce match Brésil-Uruguay est la revanche de la finale de la rencontre qui a eu lieu au stade Maracana Rio en 1950. Pelé, que vous voyez dans le rond central, avait alors 10 ans. Giglia pour l'Uruguay marqué à 10 minutes de la fin. Le but de la victoire pour son équipe et faisait pleurer tout un peuple et surtout les 200 000 spectateurs présents au stade Maracana. 200 000 spectateurs pour une finale, c'est un record qui ne sera pas battu de sitôt.
Et ça commence très mal pour la Seleção qui, dès la 19e minute, encaisse un premier but. Mais les Brésiliens ont de la ressource. Après avoir égalisé juste avant la pause, ils inscrivent 2 autres buts en 2e période. Ce jour-là, Pelé ne marque pas. Il fait mieux que ça. En feintant le gardien uruguayen d'un grand pont avant de croiser sa frappe qui vient lécher l'extérieur du poteau, tout simplement génial. Maintenant, nous savons pourquoi on l'appelle le roi. Le Brésil est en finale. La 3e étoile lui tend les bras. Un 3e titre dont les Italiens rêvent, eux aussi. En ce jour de solstice d'été, le spectacle sera à l'image du soleil rayonnant. Mais dans le bus qui les conduit au stade, Pelé est saisi par l'émotion d'une dernière finale mondiale.
Quand on est arrivé près du stade, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu cette foule de Brésiliens avec des drapeaux qui scandaient « Brésil, Pelé ». Je me suis mis à pleurer. Je voulais m'arrêter, mais je n'y arrivais pas. J'étais le joueur le plus âgé. Je ne voulais pas que les autres me voient comme ça. Mais c'était une décharge d'émotion. C'est ma dernière Coupe du Monde. Aidez-moi, Seigneur. Je veux cette Coupe. Vous devez m'aider.
Les larmes du roi vont vite sécher. Après un gros quart d'heure, Pelé en personne marque son territoire, sautant plus haut que tout le monde à la réception d'un centre de Rivellino. Rivellino, regardez Pelé. Mais oui, mais quel but magnifique de Pelé. Le roi Pelé. Les Italiens égalisent quelques minutes plus tard, mais à force de courir après les feux follets brésiliens qui ont passé 3 mois en stage au Mexique pour s'accoutumer à l'altitude de Mexico, ils finissent par s'épuiser. À la 66e minute, Gerson, une frappe missile, donne l'avantage aux Brésiliens. Puis c'est au tour de Jair Zino, servi de la tête par Pelé, d'inscrire le but du 3-1. Enfin, à 4 minutes du coup de sifflet, alors que tout est déjà joué, Pelé offre un dernier caviar, une délicieuse passe à l'aveugle pour son capitaine Carlos Alberto qui lance ses pleines balles, expédie d'une frappe surpuissante le ballon pour la 4e fois au fond des filets de Bergnisch. Cette fois-ci, plus de doute, la 3e étoile est brésilienne. Le capitaine de la sélection brésilienne, Carlos Alberto, s'apprête maintenant à recevoir la coupe Jules Rimet. Le lendemain, le Sunday Times de Londres titrera en une « Comment écrivez-vous Dieu ?» Comment écrivez-vous Pelé ? D-I-E-U. J'ai gratté mon effet. Mais oui, le roi est mort. Il est désormais un dieu vivant. Un dieu qui, durant les 50 années suivantes, connaîtra bien des apôtres. Les Cruyff, Maradona, Messi, Ronaldo, Zidane. Mais aucun d'entre eux ne parviendra à égaler Pelé. Ses 3 Coupes du Monde et ses 1281 buts inscrits en carrière, non ? Ohei reste bien le plus grand de l'histoire de ce sport. Et la Coupe du Monde 70, le chef-d'œuvre de sa carrière.
Merci à Christophe Cessieux, c'était il y a quelques jours où il nous contait cette histoire magnifique du roi Pelé, décédé jeudi à l'âge de 82 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Brésil. Notre envoyé spécial est à Sao Paulo. Vous le retrouvez dans les différentes éditions et toutes les informations justement sur ces cérémonies à suivre sur rmcsport.fr. Il est 11h44. On se retrouve dans quelques instants. Venez réagir à cette émission. Nous avons eu beaucoup de débats ce matin. N'hésitez pas, c'est le 32-16. C'est à vous de jouer, les auditeurs. À tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport. On est avec vous jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC autour de cette journée de Ligue 1 qui débutera demain et qui se poursuivra lundi. Restez bien avec nous. On va vous donner toutes les meilleures cotes. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
David est avec nous. Salut David.
Salut à vous, salut à toute l'équipe.
Salut David.
Mon cher David, avant de savoir qui tu vas affronter, tu vas faire quoi pour le réveillon ?
Oh, bah ça va être tranquille, ça va être avec mes parents, ma fille et ma femme. Et en préambule, je voulais souhaiter de très bonnes fêtes à toute l'équipe des RMC, en passant par Moscato, les GG du sport, Estelle Denis, Apolline et Charles Magna qui m'accompagnent tous les jours et toute la journée. Donc voilà.
Bah merci beaucoup.
De très bonne fête.
Tu seras avec nous en 2023. Hein. On compte sur toi.
Bah toujours. Toujours.
Bon, c'est
toujours.
Très gentil.
Moscato, ils sont déjà à l'apéro. Hein, ils t'embrassent.
Le réveillon risque d'être très long. Tu as bien raison, Simon. David, tu veux t'attaquer à qui dans cette émission ?
En fait, je m'attaque. En fait, je serais plus. Enfin, je serais revenu sur le Paris-Dakar, en fait.
Ah, faut-il arrêter le Dakar ? C'était notre question.
Voilà.
Tu exactement. Voulais apporter quoi ?
Je voulais apporter que en fait maintenant c'est une histoire de business et c'est une histoire de parce que ça coûte énormément. Alors en fait on parle beaucoup des grosses écuries mais on parle pas des petites écuries parce que j'habitais en Normandie et j'avais un collègue à Saint-Lô qui faisait le Paris-Dakar, qui fait toujours le Paris-Dakar et qui n'a pas d'écurie. Et en fait on parle jamais d'eux, on parle toujours des grosses écuries, Peugeot, Audi, etc., etc. Et maintenant, en plus, il est obligé de payer une assurance pour sa propre vie, entre guillemets. Ouais. Et en fait, il faudrait changer le concept. Parce que la première fois où j'ai vu ma mère pleurer, c'était à l'accident d'avion avec Balavoine, où c'était diffusé à l'antenne, etc., où c'était très médiatisé, etc. Et maintenant, on voit plus le Paris-Dakar. Si j'en parle à ma fille, ma femme, elle sait même pas ce que c'est. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, pour moi, faudrait changer le concept. Revoir un petit peu la chose. Remettre les choses en place. Pas business, mais compétitif et compétiteur. Les gens qui se dépassent pour arriver d'un point A à un point B, sans que ce soit juste du business à 15 millions d'euros, etc., etc. Enfin, bon, bref. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous les jugez des grandes gueules, mais je pense que maintenant, ça commence à devenir un petit peu obsolète.
Ben c'est ce que nous disaient d'ailleurs Marion et David, hein, ils étaient sur cette ligne, même Marie. C'est-à-dire que pour eux, il fallait revoir le concept même du Dakar. Marie voulait changer de nom, David ne voulait pas. Je veux pas vous paraphraser les copains, mais vous voulez réagir au propos de David ?
Bah, David, il est très clair et ce qu'il dit, c'est à peu près un bon résumé de ce qu'on s'est dit ce matin. Et voilà, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des auditeurs qui pensent la même chose et c'est les premiers spectateurs, téléspectateurs et c'est décevant et David dit ce n'est plus suivi, ce n'est plus télévisé mais parce qu'on n'achète pas en fait, parce que les chaînes n'achètent plus, elles n'achètent plus parce que le concept est complètement dépassé, obsolète.
David, tu voulais rajouter quelque chose, David Douillet.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut quand il y a une recette qui marche plus, il faut remettre en question les choses. Voilà, et c'est peut-être pour ça que par rapport à une recette où les droits de télé se cassent la figure, eh ben on accepte d'aller dans des pays comme l'Arabie Saoudite où la sécurité des pilotes n'est pas bonne. Donc voilà, entre réfléchir pour changer de concept et choisir la facilité d'aller ailleurs parce qu'on touche des dizaines de millions d'euros, c'est voilà, pour moi je trouve que c'est un peu juste quoi.
Merci David d'avoir été avec nous. Passe un bon réveillon et on se retrouve. On est là demain à partir de 9h. Hein. Je ne sais pas si tu nous écouteras.
Tu peux rappeler.
Ouais, demain matin, 9h, pas sûr.
David,
mais un podcast, David, écoute.
Podcast. Oui, ça par contre, les podcasts, il n'y a pas de souci. Oui, en podcast, il n'y a pas de problème.
Bon, merci. Repose-toi bien et passe un bon réveillon, évidemment. Et comme dirait un pote très lourd à moi, on se retrouve l'année prochaine. Merci David. Antoine nous a au 32-16. Salut,
c'est
Antoine.
Moi.
Bonjour à tous.
Exactement, David. Antoine, bienvenue dans cette émission. Merci de nous avoir appelé. Tu vas faire quoi pour le réveillon, toi ?
Rien, pas grand-chose. Repas en famille et puis après, tranquillement à la maison.
Ça démarre toujours comme ça, hein, avant de déraper.
J'avoue, c'est
non, c'est assez calme.
Tu vas déguster quel mets ? C'est quoi le repas ?
Je ne sais pas encore, c'est la surprise.
Okay.
Je m'occupe de rien.
Ouais, j'allais dire, ça c'est parce que tu mets juste les pieds sur la table.
Hein, c'est la surprise. C'est pas que c'est la surprise, c'est que tu t'y es pas intéressé, moi, Antoine.
Voilà. Non, bon. Mais au moins, je suis pas difficile. Voilà, j'impose rien, je demande rien. J'apporte ma présence et je pense que c'est le plus important.
Mais bien sûr.
En même temps, quand tu fais rien, c'est pas difficile.
Antoine,
attends, il y en a qui font rien et qui demandent un menu. Hein. J'en connais.
C'est ça.
Antoine, tu veux t'attaquer à qui ?
Je vais m'attaquer à Marion.
Ok, c'est
et pourtant,
sujet.
Pourtant, en tant que Corse, je ne veux pas trop toucher à Marion, mais voilà.
Tu as raison.
C'est sur le sujet de Cristiano Ronaldo, parce qu'il y a une toute petite réflexion, un tout petit truc qu'a fait Marion qui m'a fait tilter. Je ne sais plus qui c'est qui disait, ben Ronaldo, avec les 200 millions, peut-être qu'il pourra redistribuer à des œuvres caritatives. Et quand la personne dit ça, Marion a un peu rigolé, voire a dit « waouh ». Et en Corse, le « waouh », je sais ce que ça veut dire. Et en gros, c'est « waouh », n'importe quoi. Faudrait juste rappeler que Cristiano Ronaldo, c'est le footballeur qui donne le plus au monde.
Ah oui,
c'est-à-dire
beau,
qu'on le compare souvent, on le compare souvent avec Messi. À côté, Messi, c'est personne en fait, il ne donne rien, il n'aide personne.
Ah, on sait pas trop ça, Antoine, en tout cas c'est pas rendu public.
Mais il y a quand même eu énormément de presse faite là-dessus. On sait que Cristiano Ronaldo au Portugal, il est adoré parce qu'à chaque fois qu'il y a un enfant malade, il paye tous les frais. À chaque fois qu'il y a des problèmes de santé, il paye tous les frais. Sur son île natale, il s'occupe de tous les pauvres, il distribue énormément. Quand Mbappé donne à la Fondation Abbé Pierre, on en fait tout un plat. Ronaldo donne plus que n'importe quel autre footballeur. Et on est tout le temps en train de le critiquer. Et ça, je trouve que c'est un peu... c'est pas classe parce que, en fait, oui, il gagne beaucoup, mais je pense qu'il donne beaucoup plus que les autres aussi.
Marion, tu peux répondre.
Non, mais écoute, là-dessus, tu as raison. Hein, je vais pas te contredire. Après, pour moi, c'était pas le sujet de la réflexion sur Cristiano et sur son transfert en Arabie Saoudite et je comprends parfaitement que tu le soutiennes sur sa partie caritative et c'est bien qu'il le fasse, mais on sait très bien qu'il va pas en Arabie Saoudite pour la partie caritative, donc c'était sa réflexion globale de son choix, mais après qu'il aide et qu'il soutienne et tu as raison là-dessus, hein, tu as complètement raison de le souligner, mais il n'a pas attendu entre guillemets le il n'a pas attendu le transfert en Arabie Saoudite pour le faire.
Tu vois, non, c'est non,
pour
ça sûr,
que
je, voilà,
pour moi, c'est quelque chose qui faisait depuis longtemps. Donc, c'était pas,
mais enfin, pas,
c'est
le,
pas l'argent de l'Arabie Saoudite qui va rajouter à ça.
Voilà, mais pas le dénigrer en le faisant passer pour quelqu'un qui pense qu'à l'argent, parce que oui, il en gagne beaucoup, mais par rapport à d'autres footballeurs qui en gagnent presque tout autant, je pense qu'il il redistribue beaucoup plus.
Merci Antoine d'avoir été avec nous et passe un bon réveillon.
Tu viens d'où? Tu viens d'où, de Corse? Corse du Nord ou Corse du Sud?
Ajaccio, Corse du Sud.
C'est bien, Corse du Sud.
Bon,
bah, c'est la plus belle région, hein, donc voilà.
On va vous laisser, sinon.
Mais soyez pas jaloux.
Vive la Corse, vous avez bien raison.
Profitez bien, passez une bonne fin d'année.
Merci Antoine, et à bientôt bonne sur fête, RMC. Antoine. Et comme dirait un copain lourd à moi, à l'année.
À l'année, l'année prochaine. Prochaine.
Super. Les copains, il nous reste.
Il va falloir finir par le citer, hein, parce que à force.
Oui, non, je veux pas. Oui, c'est vrai, non, c'est possible, c'est possible. Ouais. Oh, il y en a beaucoup hein, qui le disent, hein, malheureusement. On va terminer cette émission juste pour savoir la même question. Vous nous avez raconté ce que vous allez faire pour le, ce que vous allez faire pour le réveillon. Vous avez envie de manger quoi ce soir, ma chère Marie?
Moi, on est sur un plateau de fruits de mer. Parce que là, c'est pour le coup, c'est moi qui préparais. On est sur un beau plateau de fruits de mer.
Ah, très bien. C'est quoi plutôt tes fruits de mer?
Alors, on a des huîtres, des jolies huîtres, okay. De la crevette, des bulots. J'ai pris aussi des. Comment ça s'appelle les trucs avec des
petits pics
là.
Des escargots.
Non, c'est pour voir si vous suivez.
Des oursins.
Des oursins, voilà. Mmh. Voilà, ce genre de choses.
Ok. Crabe, il y a du crabe.
Ouais, il y a un tourton, ouais.
Ok, super, parfait.
Ouais, tip top.
Marion, ce sera quoi toi le menu, le repas?
Alors moi, je vais pas avoir le temps de cuisiner, j'avoue. Donc on a réservé un resto, mais où ma fille autorise à rentrer, donc ce qui est quand même assez galère parce qu'elle a que 2 ans. Et donc on dit souvent, ben non, mais il n'y a qu'un menu d'adultes, on est désolé, mais les petits-enfants, on n'en veut pas.
Ah
donc
oui.
Écoute, ça sera quelque chose d'assez simple sur le plan de nourriture, mais j'ai envie qu'elle voit un beau feu d'artifice et qu'elle soit émerveillée. Donc ça va être le plus important. Le repas, on va dire, un petit peu plus secondaire.
Ok, David, tu te régales de quoi?
Attends, on n'a pas le temps là pour la liste de tout ce qu'on va manger.
Évidemment, le repas n'est pas secondaire chez moi.
T'as bien raison.
Non, mais très sincèrement, entre les pauses, là, pub de l'émission, j'étais en train d'hésiter sur la sauce que j'allais faire pour ce soir.
Ah, super. Mais avec quoi?
Je vais cuisiner un gibier.
Super.
Et je suis partagé entre
la sauce grand veneur,
gribiche.
Moi, je te conseille
sauce grand veneur, gribiche, ou parce que évidemment j'ai mis à mariner tout ça hier.
Bien sûr.
Évidemment, je peux transformer ça en civet, en daube. Mais comme j'ai un petit reliquat de viande, je me dis que tiens, une petite sauce de ma concoction. Alors c'est pas une sauce normande à la crème classique, mais je fais revenir ma viande, évidemment, je la cuis et ensuite je déglace au calva. Et j'étais en train de me dire, si j'avais assez de cidre pour allonger ma sauce et faire une belle petite sauce normande de ma concoction.
Ouais, du coup, la soirée avec champignons, ton bien sûr.
Moi, je te conseille franchement, va sur la sauce grand veneur hein, avec.
C'est classique. J'ai envie de changer.
Oui, c'est plus.
Et puis de Bourg-en-Bresse, ma Normandie me manque aussi. Voilà.
Tu as bien raison, fais honneur à ton patrimoine et à ta région. Mon petit Simon, rapidement.
Oui, c'est intéressant. Bah, écoute, petite poêlée de crevettes avec une persillade, voilà, et un petit gratin dauphinois.
Parfait.
Maison. Ah, bien. Voilà. bien.
Bah, bon Parfait. Réveillon, les copains, bon réveillon, les auditeurs. On se retrouve demain à partir de
9h. Soyez bien présents au
rendez-vous. Je vous raconterai ça demain, ok? Yeah. Là, c'est moi qui cuisine. Donc,
Il faut raconter
tout ça. Merci à Pierre Amiche à la production, Alban Azaïs à la réalisation et Ronaldo aux 200 millions.
Bravo!
Jusqu'à 13h, les Paris RMC.